Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance et soyez couverts en cas de maladie, de perte ou de vol de bagages durant vos voyages.
Priorité Santé, Raphaël Constant.
Bonjour et bienvenue dans Priorité Santé. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler de troubles qui atteignent le système veineux de la jambe, les varices. Veines dilatées et tortueuses, visibles sous la peau, gonflement des chevilles et des pieds, sensation de jambes lourdes, ces signes indiquent bel et bien une insuffisance veineuse chronique. Et cette pathologie, qui affecte 3 femmes pour un homme, reste encore sous-estimée et parfois mal comprise, souvent réduite à une simple préoccupation esthétique. Mais si cette dilatation des veines est a priori bénigne lorsqu'elle concerne le réseau superficiel, certaines complications peuvent devenir préoccupantes, comme des affections de la peau ou des ulcères. On va l'entendre, des traitements assez simples existent, associés à de bonnes habitudes à adopter pour éviter l'aggravation de ces varices, car elles peuvent véritablement altérer la qualité de vie et entraîner de sérieuses complications si elles ne sont pas prises en charge. D'autres varices, elles, sont qualifiées de profondes, localisées au niveau du bassin chez les femmes, elles peuvent provoquer des douleurs trop souvent inexpliquées en l'absence de diagnostic. Aujourd'hui, on va donc parler des signes de cette insuffisance veineuse, des facteurs aggravants, surpoids, tabagisme, sédentarité ou antécédents familiaux. Qu'est-ce qui, dans notre quotidien, peut favoriser l'insuffisance veineuse? Comment prévenir les varices? Comment les traiter et les soigner? Vous avez le programme. Et pour en parler aujourd'hui avec nous en studio, professeur Laurent Chiche, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service chirurgie vasculaire et endovasculaire à l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris et professeur à la faculté Santé-Sorbonne Université. Nous retrouverons tout à l'heure en direct du Sénégal le professeur Aliou Ngaïdé, cardiologue et médecin vasculaire, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Diop de Dakar. Et en fin d'émission, le docteur Massamba Sassoum Diop, médecin urgentiste et président de SOS Médecins à Dakar, nous présentera le Congrès international africain de médecine d'urgence et d'anesthésie réanimation qui se tient du 10 au 12 juin au Sénégal. Et bien sûr, vous avez la parole, on attend vos questions, vos témoignages, notre numéro WhatsApp 33 7 61 18 46 41.
Priorité santé sur RFI.
Professeur Laurent Chiche, pour bien commencer et comprendre ce qui provoque cette dilatation des veines des jambes, comment fonctionne en toile de fond notre circulation sanguine dans les membres inférieurs?
Alors le sang arrive dans les membres inférieurs par les artères. Donc, le sang est propulsé par le cœur, il va cheminer le long des vaisseaux, arriver au niveau des membres inférieurs et donc des tissus. Puis il va remonter vers le cœur par le réseau veineux. Le réseau veineux, vous avez un réseau veineux profond, qui est le réseau veineux principal, et le réseau veineux superficiel, dont la charge qui retourne vers le cœur est assez faible directement. Et en général, les veines superficielles se drainent vers les veines profondes, et tout ça remonte vers le cœur.
Donc on a des veines qui sont situées dans les muscles et des veines qui sont situées sous la peau, c'est ça ?
Exactement. Et celles qui sont situées sous la peau sont celles qui vont se dilater lorsqu'on a une insuffisance veineuse superficielle, et c'est celles qui vont donner ce qu'on appelle les varices, c'est-à-dire ces veines qui deviennent visibles à ce moment.
Donc les varices peuvent être visibles sur la jambe, la cuisse et jusqu'à l'aine finalement.
Exactement. Le plus souvent, en général, ça va suivre 2 trajets. Le trajet de la veine qu'on appelle la grande veine saphène, qu'on appelait la veine saphène interne initialement, qui remonte le long de la face interne de jambe et de cuisse sur tout le membre inférieur. Le deuxième territoire, c'est la petite veine saphène, la veine saphène externe, qui est en général à la face postérieure du mollet.
Professeur Chiche, pour bien fixer les choses mécaniquement dans notre corps, à quoi est due l'apparition d'une varice? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que le sang stagne dans les veines qui vont du coup se dilater?
Alors, il y a bien évidemment plusieurs causes. Une des premières causes, c'est la maladie de la veine elle-même, c'est-à-dire la paroi de la veine peut être altérée, et en particulier les valvules. Les veines sont valvulées de telle sorte que le sang remonte, mais ne peut pas redescendre vers les membres inférieurs. Et si la paroi de la veine et les valvules sont abîmées, à ce moment-là, le sang redescend. On peut avoir également des valvules qui sont abîmées au niveau du réseau veineux profond, ou des antécédents d'obstruction de ce réseau veineux profond, de telle sorte que normalement, le sang devrait venir du réseau superficiel vers le réseau profond. Et là, le reflux se fait du réseau profond vers le réseau superficiel qui devient surchargé et donc se dilate. Et puis, il y a d'autres circonstances qui sont effectivement des facteurs héréditaires, qui sont des chaleurs excessives, qui sont du surpoids, de l'obésité et qui peuvent favoriser également cette altération.
On va en parler, on a des questions d'auditeurs à ce sujet. J'insiste déjà sur l'importance, si je vous écoute, du diagnostic pour finalement bien comprendre d'où vient le problème, si c'est profond ou superficiel.
Exactement. Et ce diagnostic, il est d'une part clinique, mais tout de même aidé par un examen qui est assez simple et qui n'est pas vulnérant, qui n'est pas invasif, et qui est l'échographie Doppler, qui permet de comprendre ce qu'on appelle l'hémodynamique du retour veineux, comprendre comment le membre inférieur se draine pour que le sang reparte vers le cœur.
Alors au début de la maladie veineuse chronique, avant vraiment le stade de varice qui se voit à l'œil nu, quels symptômes peuvent apparaître? Est-ce qu'il y a déjà finalement des signes avant-coureurs?
Oui, tout à fait. On peut avoir une sensation de jambes lourdes, on peut avoir une sensation de démangeaison, on peut avoir une sensation d'inconfort, d'impatience, comme on dit dans les jambes, avant d'avoir les varices qui apparaissent elles-mêmes.
Et est-ce qu'on va voir des vaisseaux finalement se fragiliser, le phénomène s'amplifier, ou c'est pas parce qu'on a des petites marbrures, on dit, qu'on aura forcément plus tard des grosses varices?
Oui, alors certaines personnes ont la peau fine, la peau un petit peu blanche et vont voir apparaître des petites veines superficielles, des télangiectasies qui ne sont pas obligatoirement révélatrices d'un problème de circulatoire. En revanche, effectivement, les mêmes symptômes peuvent être liés à une insuffisance veineuse. Les varices n'apparaissent que quand les veines sont altérées et quand le reflux est déjà bien installé.
Une question au WhatsApp de Nina qui est au Gabon qui nous demande la différence entre les varices et les vergetures. Les deux se voient, mais il ne s'agit pas du tout du même phénomène.
Oui, non, ce n'est pas du tout le même phénomène. Les varices, donc, ça correspond à une dilatation veineuse, le plus souvent superficielle, mais également profonde. Donc, c'est en fait une dilatation de la paroi veineuse. Et donc, le réseau veineux, qui est un réseau capacitif, a tendance à se dilater. Plus vous le surchargez, plus il peut se dilater. Les vergetures, c'est quelque chose qui est cutané. C'est en fait une rupture de la capacité élastique de la peau.
Donc rien à voir avec la circulation sanguine.
Rien à voir.
Alors il y a la dimension visuelle, elles peuvent être donc, on le dit, très visibles, mais aussi très douloureuses. Pourquoi ça peut faire mal, professeur Chiche?
Ça fait mal parce que la distension veineuse fait mal. Et effectivement, cette paroi veineuse qui est distendue va devenir douloureuse. Les veines, comme les artères, sont innervées. On a tendance à ne pas le penser, mais elles sont innervées. Et effectivement, la distension veineuse fait mal. Que ce soit au niveau superficiel des membres inférieurs, mais en préambule, vous parliez également de varices profondes, et en particulier les varices pelviennes, sont des causes de douleurs extrêmement chroniques et qui sont très, très sous-diagnostiqué.
On va en reparler dans un instant. J'ai une autre question d'abord pour vous, c'est celle de Kim en RDC, République démocratique du Congo, qui vous demande quels facteurs peuvent favoriser l'apparition d'une insuffisance veineuse chronique.
Donc la maladie pariétale des veines et la maladie des valvules, ça c'est la première chose. Deuxièmement, sur un patient, les caractères probablement héréditaires, il y a des varices familiales, des familles qui sont sujettes aux varices. On va avoir également l'obésité, en particulier l'obésité morbide, la sédentarité dont nous parlions tout à l'heure, les conditions favorisantes des gens qui abusent de bains chauds ou qui vivent dans des conditions, des cuisiniers par exemple, qui sont dans des atmosphères un petit peu chaudes et tout le temps debout à pied. Ça peut aider. Des conditions hormonales également. Vous disiez que la femme est davantage atteinte que l'homme. Certainement, c'est une réalité. Et on a à peu près fait le tour. Il faut rajouter simplement la pathologie veineuse profonde. Donc, une séquelle d'obstruction de thrombose veineuse profonde va entraîner le développement, qu'on appelle vicariant, des veines superficielles et donc le développement de varices.
Les femmes, donc on le disait, sont le plus souvent et le plus précocement concernées par les varices. Comment ça s'explique, professeur ?
Certainement des facteurs hormonaux qui agissent sur la paroi veineuse avec une dilatation. Et la deuxième chose, c'est bien évidemment la grossesse. La grossesse avec l'utérus gravide, c'est-à-dire l'utérus qui contient l'embryon, va venir comprimer le retour veineux central, la veine cave inférieure. Et ça va donner une hyperpression en amont, c'est-à-dire au niveau des membres inférieurs, avec à ce moment-là l'occasion de surcharger le territoire veineux et de détruire ces valvules. Et si la distension veineuse ne revient pas à la normale après la grossesse, probablement que l'imprégnation hormonale y a également un rôle, eh bien on développe à ce moment-là, on peut développer des varices qui ne sont pas résolutives à l'issue de la grossesse.
On va bien sûr évoquer les complications, les traitements tout de suite. Un premier témoignage, on part pour le Togo.
RFI à Lomé.
Et on accueille Adeline qui nous appelle de Lomé. Bonjour et bienvenue.
Bonjour madame.
Adeline, vous êtes âgée de 33 ans et vous avez des varices. Depuis combien de temps vous êtes concernée par ce problème de circulation veineuse?
Oui, j'ai commencé à remarquer les varices sur mon corps à l'âge de 10 ans.
Mmh. Et elles sont localisées où vos varices?
Oui, j'ai des varices sur le tibia. Oui. Le mollet, mon fesse, qui le pousse, le bras.
Le bras?
Oui.
D'accord. Et est-ce que ça vous dérange? Est-ce que ça vous démange? Ou est-ce que c'est douloureux?
Oui, ça arrive des moments, ça me fait gratter. Et parfois, j'ai des jambes lourdes.
Vous avez les jambes lourdes. Et dans votre famille, Adeline, est-ce que d'autres personnes ont des varices?
Oui, je dirais que mon papa est déjà décédé. Mais j'ai remarqué ça sur son corps.
Oui. Et quel métier vous exercez, Aline? Est-ce que vous êtes souvent debout ou au contraire, tout le temps assise?
Oui, bon, je vous dirais que je suis cuisinière de profession, donc je travaille debout.
Mmh. Et dans la chaleur?
Oui, dans la chaleur.
Et est-ce que je peux vous demander, Aline, si aujourd'hui vous êtes en surpoids?
Oui, oui.
Oui, d'accord. Donc, vous avez plusieurs facteurs aggravants. Est-ce que vous avez déjà consulté un médecin pour vos varices?
Non, pas encore.
D'accord. Et vous avez remarqué une évolution depuis le temps, depuis l'âge de vos 10 ans?
Oui.
C'est-à-dire?
Bon.
Oui, on vous écoute, Adeline.
Oui, ça a commencé par grossir quand j'ai 15 ans, comme ça. J'ai vu l'apparition à partir de 10 ans et ça a commencé par grossir à partir de 15 ans. Quand j'ai commencé par prendre du poids.
D'accord. Et est-ce que vous avez des questions précises, Adeline, pour notre invité, professeur Laurent Chiche?
Oui, j'aimerais demander au docteur quels sont les meilleurs traitements pour les varices, s'il vous plaît.
Merci, professeur Chiche. Je me retourne vers vous.
Bonjour Adeline, merci pour cette question et pour ce témoignage. Avant, ce qu'on disait juste en préambule, c'est qu'avant de traiter les varices, il faut comprendre pourquoi elles sont là. Et moi, ce que j'entends d'inhabituel dans votre témoignage, c'est que des varices qui commencent si tôt, c'est-à-dire vers l'âge de 10 ou 15 ans, c'est vraiment très inhabituel, la première chose. Deuxième chose, la localisation. Vous signalez des varices qui peuvent atteindre sous les fesses, quasiment au niveau des cuisses, ce qui est également inhabituel. Alors, au niveau des bras, mais surtout pour les membres inférieurs. Je ne sais pas si vous avez eu la possibilité, la chance d'avoir eu une échographie Doppler, mais ce serait quand même important de savoir si chez vous, il n'y a pas un facteur anatomique favorisant ce développement de varices très précoces et sur des localisations inhabituelles. On n'est peut-être pas dans le cas d'un reflux, j'allais dire banal, qui cause des varices des membres inférieurs sans étiologie précise, quoi. On a peut-être une malformation veineuse, du retour veineux central, qui explique la localisation et surtout le développement très précoce. Varices à 10 ans, c'est très, très inhabituel.
Donc, consulter, c'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner. Adeline, merci pour votre appel. Et on vous souhaite une belle journée à Lomé. Professeur, on parle de sensation de fourmillement qui est décrite par les patients. Elle est due à quoi? Est-ce que, on en parlera aussi, les bas de contention peuvent soulager déjà les patientes?
Alors, ces fourmillements, la grande veine saphène, comme la petite, mais surtout la grande veine saphène, elle est accompagnée tout le long de son trajet, quasiment, par un nerf qui porte le même nom, le nerf saphène interne. Et en fait, la distension veineuse va venir irriter sa proximité, ses terminaisons nerveuses. Et puis la veine, comme je le disais également, elle est elle-même innervée. Donc, ça va donner ce type de sensation. Et en général, c'est effectivement un symptôme très précoce, avant même que les varices n'apparaissent. Donc, à ce stade-là, la surélévation des membres inférieurs, éviter les stations debout, avoir une activité de marche régulière, porter une contention élastique de faible grade, de la classe 2, 1 ou 2, devrait suffire à améliorer les symptômes.
On a évoqué les varices des membres inférieurs, on a commencé à évoquer les varices profondes. On parle de syndrome de congestion pelvienne, c'est ça, dans ces cas-là ?
Oui, oui, j'adore, je m'y intéresse énormément parce qu'il y a énormément de femmes qui sont impliquées par ces douleurs. Et vous savez, tout le débat sur l'endométriose, les douleurs pelviennes chroniques, les rapports douloureux, les règles douloureuses.
Et on redit, des règles douloureuses.
Oui, on a une errance diagnostique qui est très importante, avec de temps en temps également des facteurs anatomiques, une compression d'une veine de retour du drainage veineux rénal, gauche en particulier, peut donner ça. Ou également des femmes qui ont déjà eu plusieurs enfants ou plusieurs grossesses, qui de manière consécutive au climat hormonal font un retour anormal du rein vers le petit bassin plutôt que du rein gauche vers la veine cave inférieure. Et donc cette obstruction veineuse ou ce reflux veineux va venir développer des réseaux veineux profonds dans le petit bassin et par voie de conséquence, le drainage du membre inférieur gauche peut également être altéré. Donc on peut également avoir des femmes qui révèlent ça par un traitement de varices récidivantes des membres inférieurs.
Alors ce qu'il faut spécifier quand même tout de suite, c'est que ces varices-là ne se voient pas.
Non, elles ne se voient pas et c'est un problème. Mmh. Parce que les patientes sont souvent, finalement, j'allais dire, prises pour des folles. Mmh. Elles signalent des douleurs dans leur vie.
Justement les symptômes.
Les plus gros symptômes, c'est effectivement des douleurs pelviennes, cette impression de ballonnement abdominal, des douleurs de la fosse lombaire gauche, et chez des femmes en activité génitale, des douleurs pendant les rapports qui sont intolérables, voire même après les rapports, qui sont intolérables et qui ont un vrai retentissement sur leur vie sociale. Mmh. Ça mérite une émission.
On y pensera, message reçu. Donc, celles qui ne se voient pas sont probablement plus graves que celles qui se voient sur la jambe, finalement. Est-ce que ces varices peuvent être prises en charge ?
Alors oui, bien sûr. De la même façon, on a besoin d'un diagnostic très précis qui va être anatomique et également hémodynamique. Donc anatomique, c'est souvent un scanner, un angioscanner. Hémodynamique, c'est souvent une échographie Doppler, mais surtout une phlébographie. Donc on va opacifier le retour veineux pour voir comment se draine le rein gauche en particulier et qu'est-ce qui vient surcharger le petit bassin. Et la prise en charge ensuite va dépendre de la cause. Si on a uniquement un reflux du rein vers le petit bassin, l'embolisation, c'est-à-dire en fait la destruction par de la colle ou un autre matériau de ces
varices,
va suffire, voilà, pour boucher les varices. Si en revanche on a une compression anatomique, le traitement peut passer par la libération de cette compression anatomique, puis par l'embolisation. À un moment ou à un autre, il faudra de toute façon boucher les varices. On n'est pas dans le cadre des membres inférieurs où on peut boucher les varices avec une chaussette ou un bas de contention. Là, il faut les boucher par l'intérieur en les condamnant avec une colle ou un matériau d'embolisation.
On va poursuivre nos échanges, professeur Laurent Chiche, donner la parole à d'autres auditeurs et retrouver un de vos confrères au Sénégal. Vous restez avec nous, on se retrouve juste après ce titre « Silly Games » de Janet Kay sur RFI. écoutez Priorité Santé sur RFI, émission aujourd'hui consacrée à l'insuffisance veineuse, les varices. Quels risques, quelles préventions, quelles interventions en cas de complications? On est en votre compagnie, professeur Laurent Chiche, chef du service chirurgie vasculaire et endovasculaire à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Professeur, on a commencé à parler des varices profondes juste avant notre pause musicale. Est-ce que les hommes sont aussi concernés?
Alors, oui, pour les varices profondes, beaucoup moins, puisque finalement, on a assez rarement un développement de varices pelviennes, puisque le retour se fait plutôt vers le scrotum, vers les bourses. Et donc, c'est beaucoup plus souvent sous forme de varicocèle qu'on exprime chez l'homme la varice profonde. En dehors des cas d'obstruction chronique, lorsque, par exemple, la veine cave ne s'est pas développée, ou des choses comme ça.
Et est-ce qu'il faut obligatoirement opérer une varicocèle, nous demande Durel sur WhatsApp au Congo?
Alors, obligatoirement, la réponse est non, mais clairement, pour le confort, pour la qualité de vie, je pense que ça peut être effectivement envisagé, surtout qu'actuellement, le traitement devient assez simple. Si on a bien compris la cause de la varicocèle, d'où vient le reflux, on peut, comme on le disait tout à l'heure, emboliser, c'est-à-dire en fait, sans avoir à ouvrir, on peut, par radiologie interventionnelle, venir boucher le reflux qui alimente cette varicocèle.
Je vous propose tout de suite de donner la parole à d'autres auditeurs de l'émission. On est en ligne avec Bosco qui nous appelle de Kigali au Rwanda. Bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Bosco, essayez de vous rapprocher peut-être un peu du téléphone, j'ai l'impression que vous êtes assez loin. Vous nous appelez car votre épouse a des varices. Quel âge a-t-elle?
56 ans.
56 ans. Et depuis combien de temps elle a des varices et où est-ce qu'elles sont situées, vous savez?
C'est au niveau des mollets et c'est depuis 2000.
2000, d'accord. Et quels symptômes elle vous décrit?
Lourdeur des jambes.
Lourdeur des jambes, oui.
Difficile de tenir le coup parce que c'est une infirmière qui travaille à station debout.
Elle est debout.
Elle tient le coup difficilement, voilà.
Et est-ce qu'elle a consulté? Est-ce qu'elle a un traitement?
Elle a consulté... Dès l'apparition de varices au niveau des mollets, la consulté, c'était plus ou moins après sa deuxième grossesse. Et on lui a prescrit du daflon. Ça a soulagé, mais avec des journées fatigantes.
Elle est debout, oui.
Elle a été obligée de faire une automédication au diclodin.
Alors, c'est un anti-inflammatoire.
Oui, on arrive à tenir le coup quand le train du diclodin, mais les varices sont toujours là et ne disparaissent pas.
Est-ce que vous avez des questions précises pour notre invité, le professeur Laurent Chiche?
Oui, première question, l'utilisation du daflon et du diclodin à long terme, est-ce qu'il n'y a pas des inconvénients? Deuxième question, c'est moche, c'est varice au niveau des mollets. Il y a moyen, est-ce que la disparition de ces varices est-elle envisageable? Troisième question, tout récemment, quand elle se couche sur le flanc gauche, elle a une douleur atroce au niveau de la jambe gauche, brûlure. De sorte qu'elle ne peut pas rester longtemps, même pas deux minutes, elle est obligée de changer de position au coucher.
Alors on va déjà répondre à ces premières questions, Bosco, professeur, en termes de traitement, l'insuffisance veineuse. Est-ce qu'on peut prendre des médicaments? Est-ce que les deux combinés, c'est dangereux? Qu'est-ce que vous pouvez répondre?
Alors malheureusement, les médicaments ne font pas de miracle. Le daflon peut aider, hein, donc c'est un vénotonique qui peut aider justement à améliorer un peu la qualité élastique de la paroi, mais on sait très bien que ce ne sera pas un traitement miraculeux.
Et justement, sur quelle période on peut prendre ces traitements-là?
Oh, j'allais dire un traitement qui a une efficacité qui est limitée, on peut le prendre, je ne vais pas dire comme un bonbon, mais pas loin. Quoi. Globalement, ça, le Daflon ne va pas gêner. L'anti-inflammatoire, c'est un peu plus embêtant parce que ça peut donner quelques troubles gastriques en particulier, ça peut donner des phénomènes hémorragiques. Donc prendre un anti-inflammatoire, c'est bien parce que ça résout le problème douloureux, mais mieux vaut traiter la cause que se prendre un anti-inflammatoire ad vitam.
C'est-à-dire surtout en automédication.
Surtout en automédication.
Faites passer le message, Bosco, à votre femme, même si elle est infirmière.
Exactement. Donc, effectivement, ça, c'est un peu plus embêtant. Concernant la deuxième question, comment faire disparaître les varices? Tout dépend de l'intensité de la maladie variqueuse. Si c'est de simple télangiectasie, il y a des phénomènes qu'on peut scléroser, ces télangiectasies. S'il s'agit juste de petites varices, on peut faire ce qu'on appelle des phlébectomies étagées, c'est-à-dire enlever uniquement les petites veines qui sont apparentes. Et puis, s'il faut traiter le tronc veineux principal, la grande saphène ou la petite saphène, eh bien, il y a des interventions qui permettent maintenant de détruire ces troncs veineux avec une ouverture qui est extrêmement limitée par des phénomènes d'ablation thermique, comme on dit, laser ou radiofréquence, et qui maintenant viennent se substituer au traitement plus ancien qui était d'enlever, d'arracher, j'allais dire, de stripper la veine principale. Et puis, il faut l'activité physique, comme je le disais. Et puis, ce qui est un peu difficile à mettre en œuvre au Rwanda, j'imagine, c'est la contention élastique, parce que porter un bas de contention ou un collant de contention lorsqu'il fait très chaud dehors, ça ne doit pas être simple.
Mais ça peut quand même déjà soulager. Ouais. Pour ce problème de douleur, peut-être consulter à nouveau, parce qu'on ne peut pas faire de consultation par téléphone, bien entendu.
Oui, puis la douleur du flanc, lorsque la patiente est allongée, on a du mal à la rattacher aux varices. Par définition, les varices, c'est lorsque le membre est en déclivité, c'est-à-dire lorsque le sang va, par gravité, redescendre dans le membre inférieur. Alors que quand la patiente est allongée, normalement, les symptômes des varices disparaissent, ou presque. Donc là, une consultation est nécessaire.
Merci pour votre appel, Bosco, et bonne journée à Kigali, professeur. Est-ce qu'il y a un ordre chronologique des complications des membres inférieurs? Est-ce qu'elles peuvent prendre plusieurs formes?
Oui, effectivement, dans l'apparition des symptômes, au début, ce sont ces démangeaisons, cette sensation de jambes lourdes, puis l'apparition de télangiectasie ou de petites varices, puis l'apparition de varices plus importantes. Et à terme, on va avoir une modification de la coloration cutanée avec ce qu'on appelle de la dermite ocre. Cette peau va venir brunir et avec la formation presque d'une botte, ce qu'on appelle une botte qui vient au-dessus de la cheville, enserrée un peu comme ça la cheville. Et puis jusqu'à l'apparition d'ulcères, donc de troubles trophiques, qui est le stade ultime. Le stade ultime étant les complications de l'ulcère, c'est-à-dire en particulier la surinfection de l'ulcère. Donc, bien évidemment, il faut tout faire pour ne pas en arriver là.
Et dans quel cas il faut intervenir alors ?
Eh bien, je pense que lorsque la maladie est avérée, lorsque les symptômes sont vraiment directement liés à cette insuffisance veineuse, lorsque un examen comme l'échographie Doppler a mis en évidence le reflux, et surtout lorsque les troncs veineux ont atteint un certain diamètre, alors à ce moment-là, il faut les traiter.
Merci beaucoup pour ces réponses. On prend maintenant la direction de la Côte d'Ivoire.
Priorité santé.
Parce que la santé est la priorité de tout le monde.
Sur RFI.
Priorité santé, votre santé, notre priorité.
On retrouve un auditeur, c'est Nikez qui est dans la capitale, Yamoussoukro. Bonjour, bienvenue.
Ouais, bonjour Raphaël.
Nikez, vous avez 39 ans et vous avez une complication plutôt sévère. On vous écoute.
D'accord. Allez, je m'appelle Nikez, je suis à Yamoussoukro, précisément en Côte d'Ivoire. Alors, ça me fait 3 ans maintenant que je souffre d'un problème veineux. Et avec des complications au niveau du pied, une plaie, voilà.
Vous avez des plaies, c'est quoi? C'est un ulcère, c'est ça?
Oui, c'est un ulcère. Un ulcère, on dit que j'ai fait une échographie, un écho Doppler, on m'a dit que c'est un récipèle. Mm-hmm. Un récipèle, voilà. Et d'abord, tout d'abord, ça a commencé par un petit bouton au niveau du talon, voilà. Et j'ai appliqué, comme j'avais mal et le pied était beaucoup enflé, et j'ai appliqué une pénicilline, une pommade pénicilline, voilà, pour apaiser la douleur. Et du coup, le pied a commencé à s'enfler, et je me suis rendu à l'hôpital de Benjerville, là. Puisque moi, en ce moment, j'ai réalisé à Benjerville. Et lorsque je me suis rendu à l'hôpital, on m'a dit non que c'est... on m'a prescrit des anti-inflammatoires, puisque je n'ai pas fait de radio. m'a passé une anti-inflammatoire. Mmh. Je suis rendu à la maison. Lorsque je suis rendu à la maison, et l'anti-inflammatoire, ça rentre encore, encore d'autres complications. Le pied a commencé à s'enfler, et puis il a commencé à avoir des cloques sur le pied. Et ça n'allait pas, je n'arrivais pas à marcher. Et du coup, je me suis rendu à l'hôpital. Et bien avant ça, j'ai un frère qui est médecin généraliste qui a dit, est-ce que ce n'est pas une érysipèle? Bon, là, ça a vu.
C'est une infection, en fait. Une infection.
Une infection, mmh. Ouais, une infection. Et après, je me suis rendu à l'hôpital et je suis allé voir un spécialiste, un dermato-vénérologue, qui m'a fait faire plusieurs examens au niveau du rein et puis du qu'on avait ça même. Le taux de glycémie et autres, et en tout cas, tout était normal.
On va pas faire tout votre dossier médical, nickel, mais pour bien comprendre, aujourd'hui, cette plaie, est-ce qu'elle est guérie?
Elle ne guérit pas. Elle ne guérit pas parce que c'est, on m'a dit que c'est un problème veineux. Parce que le veineux, j'arrive pas même et lorsque je fais des marches, le pied s'enfle.
D'accord, je vais demander. Voilà. On va se tourner vers le professeur, professeur Chiche, pour bien comprendre ce qui se passe dans le cas de Niquèze. Est-ce qu'il s'agit d'un stade ultime de complications de varices qui n'ont pas été prises en charge ou autre chose?
Bonjour Niquèze, merci pour ce témoignage. J'avoue que j'ai un peu de mal à croire qu'une plaie qui débute au talon soit d'origine veineuse. On n'est vraiment pas dans la bonne localisation. Deuxièmement, toute plaie chronique doit faire envisager un diagnostic, on va dire, plus grave qu'une simple insuffisance veineuse. De même, l'érysipèle, c'est une infection, donc une bactérie qu'on appelle le streptocoque. C'est une infection qui, normalement, va se traiter avec des antibiotiques et qui ne devrait pas, comme ça, récidiver. Donc, je pense qu'il faut consulter pour vérifier qu'il n'y ait pas autre chose, alors que ce soit une parasitose ou une autre maladie sous cette qui a pris l'aspect, en fait, d'un ulcère. Mais l'ulcère du talon ne m'évoque pas un problème veineux initialement. Ce qui ne veut pas dire que l'échographie Doppler chez vous n'ait pas retrouvé en plus un problème veineux. Je crois quand même que devant une plaie chronique, il ne faut pas se contenter de votre diagnostic d'insuffisance veineuse lorsque cette plaie atteint le talon, comme ça.
Est-ce que vous pouvez retourner consulter Niquèze? Est-ce que c'est une possibilité pour vous?
Ok, donc, ça marche.
Ouais. Merci pour votre appel et on vous souhaite une bonne journée en Côte d'Ivoire. Professeur Chiche, la prévention, on a commencé à en parler avec les auditeurs de l'émission, mais quelques éclairages supplémentaires. Comment on peut préserver son capital veineux? Est-ce qu'il y a des gestes adoptés, une alimentation qui pourrait aider?
L'alimentation va viser à éviter l'obésité et l'obésité morbide. Oui. Ça, c'est la première chose. Il faut manger healthy, comme on dit maintenant.
Sain.
Probablement sain, voilà, exactement.
Éviter le tabac, on en a très peu parlé.
Éviter le tabac, qui est un facteur d'agression de l'endothélium, c'est-à-dire les cellules qui viennent faire le revêtement en fait, de ces vaisseaux, que ce soit les artères ou les veines. Donc, éviter le tabac. Avoir cette activité physique qui est vraiment importante en ce qui concerne le réseau veineux parce que les mollets, en se contractant, vont appuyer, vont chasser le sang dans ces veines superficielles, mais surtout également profondes, et donc vont aider au retour du sang. Se chausser correctement, bien évidemment. Porter une contention si la maladie commence à se déclarer. Surélever les membres inférieurs chaque fois que possible. Quand on lit un livre, quand on regarde la télévision, on peut faire ça. Et puis surtout, éviter les stations debout prolongées comme les bains très chauds, parce que ça vient dilater le réseau veineux profond et le réseau veineux superficiel. Et donc, le sang va stagner. Et en stagnant, il va y avoir toutes ces modifications dont on a parlé, cutanées, jusqu'à la formation d'ulcères éventuellement. Mais l'activité physique et la réduction du poids sont déjà des choses assez simples à mettre en œuvre.
Les meilleurs conseils qu'on peut donner. Allez, tout de suite, on prend la direction du Sénégal.
RFI à Dakar 92 FM.
Et on vous retrouve, professeur Aliou Ngaïdé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cardiologue et médecin vasculaire, enseignant-chercheur à l'université Charonta Diop de Dakar. Professeur, est-ce que cette spécialité, la médecine vasculaire, elle est répandue au Sénégal?
Alors, pour dire vrai, c'est une spécialité qui n'est pas du tout répandue au Sénégal. Hein. On peut même dire que c'est le parent pauvre de notre, disons, arsenal à la fois diagnostique et thérapeutique. C'est vraiment une spécialité nouvelle au Sénégal.
Vous avez d'ailleurs initié cette année le premier diplôme universitaire africain en médecine vasculaire, je crois.
Oui, effectivement, nous avons initié cette année le premier diplôme universitaire parce qu'il est important d'abord de signaler que la médecine vasculaire est une spécialité médicale à part entière, comme la cardiologie, la néphrologie, l'endocrinologie. Cependant, En Afrique, la médecine vasculaire est une spécialité encore très jeune et très peu développée. C'est pourquoi l'Afrique est confrontée à un véritable défi en matière de ressources humaines qualifiées dans ce domaine. Alors, pour répondre à ce besoin criard, le Sénégal a pris une belle initiative historique, d'ailleurs, en lançant cette année le premier diplôme universitaire en médecine vasculaire en Afrique francophone à la faculté de médecine de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et bien évidemment en partenariat avec la Société française de médecine vasculaire et le Collège des enseignants de médecine vasculaire de France.
Alors professeur Chiche, professeur Ngaïdé, pour avancer sur le sujet, est-ce que la population sénégalaise connaît ce problème de varices? Est-ce qu'elle est familiarisée avec ce trouble veineux? Est-ce que c'est un motif de consultation fréquent en fait?
Ben, effectivement, il faut savoir que la prévalence des varices et de l'insuffisance veineuse chronique au Sénégal et en Afrique en général est peu documentée et probablement sous-estimée. Mmh. Et que la plupart des études sur l'insuffisance veineuse chronique sont des études hospitalières et concernent les formes sévères, les formes précoces qui sont fréquentes et échappent au radar. Alors, ce qui fait que nous, on pense que ce qu'il faut retenir avec, on a des prévalences qui tournent autour de 7 à 20%. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce faible taux n'est rien d'autre que l'arbre qui cache la forêt. Mmh. Mais en réalité, la prévalence est plus élevée que ça.
Et donc, est-ce que les patients qui viennent vous voir sont passés par d'autres spécialistes avant ou est-ce qu'ils arrivent à un stade plutôt avancé en consultation?
Alors, le plus souvent, il faut savoir que c'est des patients qui arrivent tout le temps à un stade quand même très avancé. Mmh. Et il est important aussi de savoir que les varices de l'insuffisance et l'insuffisance veineuse chronique ont des particularités spécifiques chez les personnes à peau noire qui influencent à la fois le diagnostic, la prise en charge et l'évolution de la maladie. Mmh. Ce qui fait que ces patients, ils viennent vraiment à un stade tardif de la maladie. Car le diagnostic clinique est souvent plus difficile sur peau foncée. Les signes classiques comme l'hyperpigmentation, les dermites ou les rougeurs sont moins visibles, voire même passent inaperçus.
Et en termes de prise en charge, qu'est-ce que vous proposez à vos patients?
Alors, ça c'est une excellente question. Je pense que du point de vue de la prise en charge, il faut savoir que le traitement des varices et de l'insuffisance veineuse chronique est disponible au Sénégal. Il existe plusieurs centres disposant d'un plateau technique adapté pour la prise en charge, que ce soit pour le diagnostic par échodoppler veineuse, mais aussi pour les traitements médicaux interventionnels ou chirurgicaux. Alors, parmi les établissements qui offrent ces soins spécialisés, on peut citer l'hôpital d'Alal Diam à Guédiawaye et l'hôpital général Idrissa Pouy, etc., qui disposent d'un service de médecine vasculaire actif avec Doppler et possibilité de sclérothérapie. Alors, le traitement endoveineux également, comme le laser, est disponible actuellement à l'hôpital d'Alal Diam. Il faut savoir également que le centre hospitalier universitaire de Fan dispose d'un service de chirurgie vasculaire pour les cas plus complexes nécessitant une intervention chirurgicale.
Et est-ce que ces traitements sont coûteux, professeur?
Évidemment, ces traitements sont très coûteux. La sclérothérapie pour une séance est 50 euros et il faut en faire plusieurs. Le traitement endoveineux comme le laser, il faut compter 450-500 euros, ce qui n'est pas tout à fait accessible.
Est-ce qu'il y a des campagnes spécifiques pour mieux informer la population sur l'insuffisance veineuse, et donc ne pas arriver à ces stades d'ulcères dont on a parlé?
Alors, c'est ça en réalité le véritable drame, pour dire vrai. Il faut dire que comme les pathologies, à l'instar des pathologies chroniques comme le diabète, comme l'hypertension artérielle, il faut savoir que l'insuffisance veineuse chronique ne fait l'objet d'aucune campagne de sensibilisation et donc ce qui fait que la population ne connaît pas en réalité ce qui se passe.
Est-ce que vous avez un mot de conclusion, professeur, à faire passer?
Alors, un petit mot de conclusion. Oui, nous dirons tout simplement, il faut savoir qu'il est essentiel aujourd'hui que nos décideurs intègrent la santé veineuse dans nos politiques de prévention, de former davantage de professionnels, pas seulement à l'examen Doppler, mais à la médecine vasculaire et de sensibiliser la population sur cette pathologie silencieuse, mais très impactante. Et je dirais tout simplement que le traitement est possible, efficace, disponible, mais il doit être précoce, adapté et global.
Un diagnostic précoce pour une meilleure prise en charge. Merci infiniment, professeur Aliou Ngaïdé, d'avoir répondu à nos questions et on vous souhaite une belle journée à Dakar. Professeur Chi, je me tourne vers nous parce qu'on arrive à la fin de nos échanges. Merci aussi à vous pour vos éclairages, vos analyses. Est-ce que je peux vous laisser un mot de fin également?
Non, je suis ravi de voir qu'il y a une vraie prise de conscience de cette maladie veineuse qui est extrêmement répandue, qui a des conséquences qui peuvent être désastreuses lorsque les ulcères sont installés. Et concernant les veines profondes, effectivement, dans la première conséquence désastreuse, c'est le diagnostic qui n'est souvent pas établi et donc des souffrances chroniques. Et donc, je vous remercie, vous, de m'avoir invité pour donner quelques éclairages sur ce sujet.
Et merci d'avoir répondu à nos auditeurs. On va parler du Congrès international de médecine d'urgence qui se tient cette semaine à Dakar. Ce sera juste après ce titre de la playlist RFI, Vaitim Bora de Trinix et Marie Fross. Caxinguele, maracajá, voo de mate, tapere, saciperê, boitatá, e boitatá, boitatá. Mindicele, 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 bichos e seres saírem de dentro. Fechada, se ouviram gritos da noite, estalo de açoite pela madrugada. Arrepio, vai-te embora, assumiu a caipora. Arrepio, vai-te embora, assumiu a caipora. Avec nous, docteur Massamba Sassoum Diop, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin urgentiste, président de SOS Médecins à Dakar et vous organisez le Congrès international africain de médecine d'urgence qui se tient du 10 au 12 juin au Sénégal. Docteur, expliquez-nous pourquoi un tel événement et qui va rassembler? Combien de pays y participent?
Oui, il y a plus d'une... Il y a pas, en fait, c'est tous les pays africains francophones qui vont être présents. Et en fait, c'est très important parce que la médecine d'urgence est vraiment en mutation actuellement. Et les patients viennent très, très souvent dans un état vraiment très tardif. Et du coup, il n'y avait pas jusque-là une vraie filière. Et maintenant, dans presque tous les pays donc, d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, il y a vraiment une filière de spécialisation qui est en train de se faire. Et donc, justement, nous en profitons avec la Société africaine francophone de médecine d'urgence, de relancer un petit peu ces congrès qui permettent de réunir tous les urgentistes africains. Et puis bon, il y a aussi la Société française de médecine d'urgence par sa présidente qui est représentée, le président du SAMU de Paris, enfin voilà, et du 93. Donc en fait, on a beaucoup de collègues d'un petit peu partout qui vont travailler sur des thèmes très importants qu'on a aujourd'hui.
J'allais vous demander justement quels sont les grands thèmes qui vont être développés et surtout pour répondre à quels besoins.
Alors déjà, qui est original, il y a la conférence inaugurale, mais ça c'est quelque chose de particulier à laquelle on tenait, c'est la médecine en Afrique de moins 3300 à plus de 2050. Donc c'est toute l'histoire, mais aussi on se projette dans l'avenir pour voir vers quoi on va. Ça c'est une chose faite par le professeur Abdoulkalm. Mais parallèlement, on va traiter aussi bien de la partie traumato, parce qu'on sait qu'il y a énormément de problèmes de traumatologie, maladies infectieuses. Et d'ailleurs, on va discuter sur la Covid et pourquoi l'Afrique a été moins touchée que le reste du monde et l'Afrique subsaharienne, mais aussi toutes les maladies non transmissibles. On a, comme on pourrait dire, quasiment une épidémie d'accidents vasculaires cérébraux, d'infarctus du myocarde, et c'est une véritable catastrophe, c'est une vraie bombe, et on va discuter de cette prise en charge. On va aussi discuter, bien sûr, de maladies comme le paludisme, mais aussi l'évaluation des pratiques professionnelles et de la qualité. Parce que pour nous, je crois que c'est très important qu'on travaille sur cela. De l'humanitaire, avec le SAMU social et l'expérience des SOS Médecins France à Mayotte, puisqu'en fait, c'est un congrès commun avec les SOS Médecins France. Mais d'autre part, on va avoir, parce que vous savez que le Sénégal va organiser les JOJ, les Jeux Olympiques de la Jeunesse.
En 2026, oui.
Exactement. Et du coup, on va avoir le retour d'expérience par le professeur Abney, qui est le directeur du SAMU de Paris, de qu'est-ce qui s'est passé. Et bien évidemment, c'est extrêmement important et intéressant pour nous, puisque ce sont des événements comme ça internationaux qui regroupent énormément de gens, aussi bien athlètes que spectateurs.
Alors, vous avez aussi une conférence exceptionnelle sur l'hypnose et l'urgence. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est déjà développé?
Alors, c'est une chose qu'on aimerait bien, j'avoue, on en fait. Et on pense que c'est vraiment quelque chose d'avenir. C'est-à-dire que quand vous voyez avec quelle la qualité de la prise en charge de la douleur, quand on associe des thérapeutiques alternatives, et entre autres celle de l'hypnose, c'est vraiment impressionnant. Mmh. Et donc, ça fait partie. Et souvent, les gens pensent qu'en urgence, ben, on va juste injecter des produits puissants et puis c'est tout. Ben, au contraire, ça fait partie avec... On a fait aussi une... on va parler de la communication entre médecins, patients et familles. Et ça aussi, ça fait partie, si vous voulez, de cette prise en charge globale. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le fait de prendre en charge la pathologie d'un patient, mais il y a aussi le fait de prendre en charge le patient lui-même dans sa globalité. Mmh. Et ça, aujourd'hui, il faut qu'on évolue vers ça. C'est-à-dire le patient, c'est un être. Et cet être-là, il faut le prendre en charge dans sa globalité, et pas uniquement techniquement sur le plan de la maladie. Et du coup, dans ce cadre... Oui,
en quelques secondes, vous, qu'est-ce que vous espérez de ce congrès?
C'est vraiment une actualisation des connaissances de tout le monde. C'est le fait de communiquer tous entre nous et de vraiment pouvoir faire progresser cette médecine d'urgence qui aujourd'hui est essentielle dans nos pays du Sud parce que les patients arrivent toujours dans cette situation gravissime.
Merci d'avoir été en ligne quelques minutes avec nous, docteur Massamba Sassoum Diop. Et surtout, on vous souhaite de riches échanges. Notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe, Ophélie Lassen, Louise Kaledek, Talim Pou et Victor Hull à la réalisation. Vous pouvez réécouter Priorité Santé en podcast sur notre application mobile Pure Radio. Demain, émission consacrée aux maladies de la prostate. Cette glande masculine assez méconnue, sinon taboue parce que liée à l'intimité des hommes. On se retrouve à 9h10 en temps universel. Et d'ici là, prenez soin de vous. Belle journée sur RFI.
C'était Priorité Santé avec Sunwa Assurance et soyez couverts en cas de maladie, de perte ou de vol de bagages durant vos voyages.